Alors voilà, on reprend mes histoires dès que la présentation sera à l'écran. Je voudrais juste redire hein, tout à l'heure hein, ce que j'ai dit, mais qui me semble vraiment très important quand on lit Luc 15, hein, cet homme qui avait deux fils, hein, et très important de comprendre que quand Jésus raconte cette histoire, il y a les pêcheurs là, qui se sont agglutinés autour de lui. Hein. On voit ça au verset 1 de Luc 15. Et puis les pharisiens, les docteurs de la loi, les justes qui sont là également. Et Jésus a cette capacité pédagogique immense de pouvoir s'adresser à chacun et dire à chacun ce qu'il a besoin d'entendre. Et Jésus raconte ces trois histoires, hein, 1 sur 100, 1 sur 10, 1 sur 2, pour véritablement s'adresser à ces gens très disparates qui sont devant lui, les uns qui veulent mériter l'amour du Père, et puis les autres qui veulent se passer de l'amour du Père. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les uns et les autres font fausse route. Et essayez vraiment d'imaginer que quand Jésus raconte cette histoire où tout d'un coup il y a les cochons qui arrivent, pour les gens de l'époque, ça devait être extrêmement déroutant d'entendre une histoire pareille. Extrêmement déroutant. Et comment Jésus pouvait prendre des références comme celle-là et des références qui pouvaient vraiment profondément choquer les gens, mais les choquer dans le but de les amener à vraiment réfléchir de manière approfondie. Et juste terminer sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la réaction du Fils que l'on n'attend pas. Alors, je me suis souvent interrogé sur ce fils qu'on n'attend pas, mais il me fait penser à ce jeune homme qui fait une croisière. Et alors je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, en tout cas pour ceux qui l'ont entendu, pardonnez-moi de me répéter, mais et qui au moment du repas, l'hôtesse lui dit « Allez vous servir au buffet, là ». Et le garçon dit « Non, moi je vais acheter un sandwich, parce que je vais acheter un sandwich ». Le lendemain, elle lui dit la même chose, « Allez manger au buffet, tout est prêt ». « Non, je vais acheter un sandwich et je vais me contenter d'un sandwich ». Et 8 jours après, il a toujours mangé des sandwichs et c'est le 8e jour qu'il découvre que tout était compris. Le buffet avec les fruits exotiques, avec les chouchis, avec la cuisine réunionnaise, la cuisine belge et la cuisine française et chinoise, vraiment des mets succulents en abondance. Et oui, c'était compris dans le prix. Et très souvent, avec Dieu, nous sommes un peu comme ce fils aîné qui n'osons pas prendre ce qu'il nous a donné. Et tout ce qui est à moi est à toi, dit le Père. Et tout d'un coup, cet enfant découvre qu'il a passé des années à mériter et à gagner l'amour du Père, amour qui était déjà acquis. Et nous perdons tellement de temps à essayer de gagner l'amour du Père. Et le Seigneur, au travers de ces histoires, nous redit que ce n'est pas la peine. Et moi, je me pose une question et je vous la pose. Pourquoi Dieu aime les faibles, les petits et les perdants? Vous avez remarqué que dans cette histoire, et il y a beaucoup d'autres histoires bibliques, et vous le verrez dans les deux autres histoires que je vais vous raconter, pourquoi Dieu a cette passion pour les faibles, les petits et les perdants? Moi, je pense, je viens de France, le journal L'Expansion, par exemple, ou Le Figaro, tous les ans font le classement des 50 personnes les plus riches du monde. Ou les sociétés dont la capitalisation boursière est la plus importante. Amazon ou Google, je crois, qui a dépassé en capitalisation boursière 1 milliard de dollars. Et alors, on aime regarder ça. Mais est-ce que vous trouverez le classement des 50 personnes les plus pauvres du monde? Ça n'intéresse personne. Et voilà que ce Dieu de grâce nous montre un intérêt que les gens de son temps, semble-t-il, n'ont pas envers cette brebis qui se perd et qui complique la vie de tout le monde, cette pièce de monnaie qu'on a perdue et on oublie les 9 autres que l'on a, et ce père qui a un fils loyal et qui est sur le perron en train d'attendre le retour du fils le plus jeune qui est parti. Et le père est sur le perron parce que il est certain que l'avenir est meilleur que le présent qu'il vit. Alors, on a peut-être le temps, mais on a certainement beaucoup de questions, beaucoup de réponses à cette question. Pourquoi Dieu aime les petits? Et je suppose que dans toutes les raisons que vous auriez évoquées, il y aurait eu certainement celles que l'on voit dans le livre des Juges. Et je trouve extraordinaire de voir dans le livre des Juges, le livre des Juges qui est quand même dans l'Ancien Testament, une réponse à cette question fondamentale de la grâce. Et vous vous rappelez, vous avez entendu cette histoire à l'école du dimanche, 300 hommes pour Gédéon. Gédéon et toute sa troupe se levèrent de bon matin et dressèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord du sien, depuis la colline de Morée jusqu'à dans la vallée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Ta troupe est trop nombreuse. » Incroyable. Le Seigneur est quand même un piètre général. Hein. « Ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. Israël pourrait s'en vanter à mes dépens et dire, « C'est grâce à moi que j'ai gagné ce combat. C'est ma propre force qui m'a sauvé. » Maintenant, proclame ceci en présence de la troupe. « Je te prie. » Que celui qui a peur et tremble reparte, qu'il s'en aille de la région montagneuse de Galade. 22 000 hommes parmi la troupe repartirent, et il en restait 10 000. Le Seigneur dit à Gédéon, la troupe est encore trop nombreuse. La troupe est encore trop nombreuse. Et il me semble que si Dieu aime les petits, les faibles, les perdants, ben c'est que les petits ne sont ni dans la suffisance, ni dans le mérite, et encore moins dans la toute-puissance, encore moins dans ce droit que je veux montrer à Dieu, au travers duquel je lui dis, je le mérite. Et cette histoire de Gédéon qui passe de 30 000 soldats à 300 est une illustration extraordinaire de cette pensée de Dieu sur l'amour, et la passion, et l'intérêt qu'il a pour les petits. Et est-ce qu'on se sent comme un petit aujourd'hui devant Dieu? Est-ce qu'on se sent comme un perdant devant Dieu? Bénis soient les perdants, parce que c'est eux qui suscitent la passion jalouse de Dieu. Je me souviens quand notre président Giscard d'Estaing a perdu les élections contre M. Mitterrand, on l'a trouvé plus humain quand il était en situation de perdant. Et que là, devant 50 millions de Français, il venait nous dire au revoir. Et il nous a dit des choses qui ont touché notre cœur. Et il parlait comme un perdant. Et c'est là qu'on trouve toute son humanité. Toute sa tendresse, toute sa force. Tout ce qui fait qu'on a envie d'aller vers les gens. Et Dieu se passionne pour les petits, pour les perdants et pour les faibles. Parce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Il y a tellement de choses où on ose dire à Dieu, c'est grâce à moi. Et justement, une autre histoire que Jésus raconte dit cela d'une manière très surprenante, c'est dans Matthieu 20. Alors, je dis souvent aux gens qui me connaissent que quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans le monde des affaires, je passais de Matthieu 19 à Matthieu 21. Parce que cette histoire que Jésus raconte là est invraisemblable. Et j'aimerais vous lire cette histoire que vous connaissez. Alors, je suppose que vous avez entendu déjà beaucoup de prédications sur ce texte. Et laissez-moi vous donner une perspective de ce texte dans cette idée de la grâce. C'est Jésus qui parle. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Il est semblable à un maître de maison qui était sorti de bon matin embaucher des ouvriers pour sa vigne. Et il s'est mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et il les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure en vue d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, « Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, puis vers la neuvième, et il fit de même. Vers la onzième heure, la fin de la journée, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ? » Ben, c'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, allez dans la vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ça, c'est encore la culture de la grâce. Hein. On va des derniers aux premiers. C'est déroutant. C'est bizarre la manière dont le Seigneur fait les choses. En allant des derniers aux premiers, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer. Ah, voyez, les rabat-joie. Maugréer contre le maître de maison. Et ils dirent, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. N'as-tu pas lu ce que la parole de Dieu dit sur le juste salaire? Et la parole de Dieu est très claire sur le juste salaire. Le maître répondit, écoute mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers, les derniers. Parole de Jésus. Alors, je ne sais pas comment vous recevez un texte comme ça, un 15 septembre 2018. J'aimerais avoir quelques réactions dans la salle, très rapides. Comment vous recevez un texte comme ça? Pardon? Ah! Voilà un homme qui réagit normalement. Si j'ai un patron qui fait ça, je pense que je vais réagir mal. Hein. Ce n'est pas comme M. Sarkozy qui nous dit « travailler plus pour gagner plus ». C'est « travailler moins pour avoir pareil ». Et ça, économiquement, ça ne tient pas. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Et j'imagine le Seigneur raconter cette histoire avec un sourire en coin. Parce qu'il réalise, il comprend, il imagine à quel point les auditeurs vont être choqués par cette histoire. Choqués. Et il me semble que la clé de lecture de ce texte, c'est cette parole du maître. Ou bien, verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alors moi, je le dirais sans hésiter, et je suis d'accord avec le frère qui vient d'intervenir, cette histoire est un scandale et une aberration absolue d'un point de vue économique. Et le Seigneur sait très bien, il le sait, et c'est pour ça qu'il le raconte, qu'aucune entreprise humaine ne peut fonctionner sur ce principe. Aucune. Et aucun directeur de ressources humaines, aucun patron de grande entreprise, aucun de directeur administratif et financier, ce que je suis au château, motivera ses collaborateurs sur un tel principe. Et soyons conscients que cette manière de rémunérer ces gens qui arrivent à des heures différentes, eh bien, s'oppose à la notion de juste salaire qui est défendue par ailleurs dans la Bible. Alors pourquoi Jésus raconte une histoire pareille? Alors beaucoup de commentateurs ont essayé de montrer ces ouvriers de la dernière heure extrêmement motivés hein, dans leur travail, extrêmement engagés, hein, parce que le patron les a enfin embauchés, et là ils montrent au patron à quel point ils sont motivés et engagés dans le travail. Le texte ne dit pas ça. Le texte ne dit pas ça. Le texte ne parle pas d'une motivation plus importante des ouvriers de la dernière heure. Alors là, pareil, c'est le commentaire que j'ai fait tout à l'heure. Quand on lit une parabole, il y a plein de détails dont il ne faut pas tenir compte. Parce qu'il y a une idée centrale, et c'est cette idée centrale que nous devons saisir. Alors, je sais, avec notre esprit très cartésien européen, qu'on va mentionner le contrat qui est signé en début de texte. Mais je prétends que ce détail n'a pas de signification particulière par rapport à, il me semble, ce que Jésus veut faire comprendre aux gens. Et on peut se dire, oui, mais ils ne sont pas contents, mais ils ont signé un contrat pour un denier. Donc, non, ça c'est un détail dans l'histoire. Et vous savez, dans les paraboles, il y a beaucoup de détails, et il ne faut surtout pas mettre les détails sur le même plan que l'intention pédagogique profonde, immédiate que le maître a. Alors, quelle est l'intention de Jésus au travers d'une histoire comme ça? Eh bien, Jésus nous dit tout simplement que Dieu n'accorde pas de salaire. Dieu accorde des dons et des cadeaux gratuits qui ne dépendent ni de ce que je fais, ni de ce que je ne fais pas. Je redis ça parce que c'est la clé de la grâce. Dieu ne donne pas des salaires, Dieu est un Dieu de grâce qui accorde des dons gratuits. Et ces dons gratuits ne dépendent pas de mes performances, des 11 heures que j'ai travaillées, de toute l'énergie que j'ai mis à faire les autres, et ne dépendent pas non plus de la seule heure que j'ai travaillée et dans laquelle je me suis engagé avec la motivation qui peut être la mienne, mais ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Et cette image des uns qui ont travaillé 11 heures, qui reçoivent un denier, et des autres qui ont travaillé une heure et qui reçoivent également un denier, eh bien me dit avec puissance que ce ne sont pas mes performances qui comptent devant Dieu. Ce ne sont pas mes mérites. Et en même temps, ce ne sont pas mes manquements qui comptent devant Dieu. Ça, c'est la grâce. Et verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Nous sommes ce que nous sommes par la seule initiative généreuse, souveraine et amoureuse de Dieu à notre égard. Et nous devons comprendre une bonne fois pour toutes que Dieu ne nous juge pas sur ce que nous faisons. Alors là, dans la mentalité évangélique, c'est dur d'entendre ça. Et que Dieu ne nous apprécie pas sur ce que nous ne faisons pas. Verrais-tu d'un mauvais œil que je dispose de ma fortune comme je l'entends ? Je veux donner à celui qui a travaillé 11 heures le même salaire que toi qui as travaillé une heure. Et là, on dit, Seigneur, pitié. Aide-moi profondément à intégrer cela dans toutes les pores de ma vie, de mon être, de ma pensée, de mon intelligence, de ma piété, de ma vie avec toi, de ma vie avec les autres, de ma vie avec moi-même. Je veux, Seigneur, m'appuyer sur les performances de Jésus-Christ. C'est ça la grâce. Et Jésus-Christ a déjà remporté pour chacun d'entre nous le poids et la faute et tout ce qu'il fallait pour plaire à Dieu, nous n'en sommes pas capables. Et cette parabole est devenue aujourd'hui ma parabole préférée, dont je me délecte. Parce que Dieu me dit, Gérard, rien de plus, rien de moins. Tu ne peux rien faire de plus pour que je t'aime plus. Et il n'y a rien de moins que tu puisses faire pour que je t'aime moins ou que je cesse de t'aimer. C'est la grâce. Et cette grâce comprise nous rend définitivement libres. Parce que le monde est mené par le manque de grâce. Tout dépend de ce que je fais. Il faut que je réussisse le tir. Alors je vais évoquer là peut-être un souvenir douloureux pour vous, hein. Le match perdu contre la France. Mais Dieu aime les perdants. Parce que ceux qui gagnent pourraient imaginer qu'ils y sont seuls pour quelque chose. Et ça, c'est terrible. C'est terriblement décevant pour Dieu. Et quand le Seigneur dit à Gédéon, « Je ne veux pas des 30 000, donne-moi les 300 hommes. » Ils n'auront pas l'outrecuidance de penser qu'ils y sont pour quelque chose. Incroyable. Et je me rappelle, alors la France est revenue vainqueur, victorieuse sur les Champs-Élysées. En 98, j'étais sur les Champs-Élysées parce que c'était magnifique de partager la victoire des vainqueurs, et on se reconnaît dans les vainqueurs, et on est là avec eux, et on se sent bien, on n'aime pas être avec les perdants, on n'aime pas être avec les perdants. Et 4 ans après, la France a perdu tous ses matchs en Corée, n'a même pas passé les phases de qualification, les phases de poule, et personne n'est venu les accueillir quand ils sont arrivés à Roissy. Parce qu'on s'en fout des perdants. On ne se réjouit pas dans les perdants. On n'a aucun intérêt à se complaire avec les perdants. Eh bien, le Dieu que nous avons aime les perdants, parce que c'est les perdants qui ont les mains vides et qui disent au Seigneur, aide-moi, secours-moi, aie pitié de moi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, je suis pécheur. Je ne suis qu'un ouvrier qui en a travaillé qu'une heure. Et le monde est mené par le manque de grâce, et le royaume de Dieu nous attire dans une autre direction, une autre dynamique qui ne dépend pas de ma performance, mais de celle de Jésus. Qu'on rentre cela dans sa tête, parce que c'est la clé de l'évangile. C'est la clé de ma vie, c'est la clé de ce que je vais être, c'est la clé de mes relations avec les autres. De ma relation avec Dieu, bien entendu, et de ma relation avec moi-même. Et qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre au travers d'un récit comme ça? Je crois l'avoir dit. Eh bien, Jésus, sa grâce, c'est une invitation que Dieu nous fait à sortir du monde du calcul, sortir du monde du mérite, sortir du monde de la disgrâce, pour entrer sans réserve dans le monde du don et de la gratuité. C'est le cœur de l'évangile. Et Jésus nous dit, Gérard, tu n'as pas à accomplir. Ah, que c'est dur pour moi d'entendre ça. À moi dont on a dit depuis que je suis enfant, que je suis quelqu'un, que au travers de ce que je fais. Et je reconnais ma valeur, et je reconnais mon identité dans ce que je fais. Non pas dans ce que je suis. Et Jésus me dit, tu n'as pas à accomplir, suis-moi, crois-moi, mets ta foi dans qui je suis, dans ce que j'ai fait. Délecte-toi de moi et tu n'as pas besoin de faire. Parce que ce n'est pas ce que je fais qui compte pour Dieu, j'insiste, et ce n'est pas non plus ce que je n'ai fait pas, parce que Jésus a remporté pour moi la victoire coûteuse d'être accepté par Dieu. La victoire coûteuse d'être accepté par Dieu. C'est ce que nous chantons, c'est ce que nous prêchons tous les dimanches. Et je l'ai dit, je ne peux rien faire de plus pour que Dieu m'aime plus. Il n'y a rien de moins que je puisse faire pour que Dieu m'aime moins, ou que Dieu cesse de m'aimer. Vous savez, quand j'ai compris ça, je suis devenu un homme libre. Libre du regard des autres. Libre de ce que pensent les autres sur moi. Libre de ce que je pense de moi. Libre des fardeaux que parfois je mets sur mes épaules. Comme le fils aîné de la parabole. libre du regard que l'Église parfois porte sur moi, même s'il est vrai, la parole de Dieu nous dit de ne rien faire, hein, qu'il puisse être une occasion de chute pour les gens avec qui nous vivons, évidemment, évidemment. Libre. Et puis Jésus, en nous racontant des histoires pareilles, d'un maître qui dit « Mais verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ?» ben, nous rappelle ce que Dieu dit dans le livre d'Osée, « Car je ne suis pas un homme, mais Dieu. » Et je ne pense pas comme vous. Et la grâce est l'illustration la plus puissante de ce message que Dieu nous envoie et nous dit « Je ne pense pas comme les hommes. Accueillez-moi comme je suis. Aimez-moi pour qui je suis. Et débarrassez-vous de toutes les idoles qui sont tellement tyranniques dans nos vies. Ces idoles auxquelles nous soumettons notre vie. Ces fausses croyances auxquelles nous soumettons notre santé mentale, notre santé spirituelle, notre santé émotionnelle, notre santé relationnelle. Mettez toutes ces idoles à la poubelle. Et aimez-moi pour qui je suis, parce que je ne suis pas un homme, mais je suis Dieu. Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » Et le Seigneur nous demande et nous pose cette question. Alors, nous recevons aussi cette histoire en fonction de si on se voit comme les ouvriers de la dernière heure ou les ouvriers de la onzième heure, la première heure et la onzième heure. Et là, on va certainement recevoir cette parole du maître d'une manière un peu différente, mais au final, c'est la même chose. Dieu nous pose cette question. Est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je sois bon ? Et vis avec moi cette réalité, mais de manière intégrale. Et nous verrons cet après-midi ce que ça peut vouloir dire dans notre vie de tous les jours, toutes ces choses que je suis en train de vous dire maintenant. Et puis, Jésus a encore raconté une autre histoire qui se trouve dans Matthieu 18. Alors, pour les gens qui font la formation, nous avons lu ce texte et nous avons étudié ce texte la semaine dernière. Donc, je vous demande de rien dire et de laisser les autres un peu réfléchir à ce texte. Alors, vous rappelez, Matthieu 18, verset 21, c'est l'apôtre Pierre qui vient vers Jésus et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» 7 fois. Jésus ne lui dit pas 7 fois, mais 70 fois. 77 fois, 7 fois. C'est pourquoi, mon cher Pierre, il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui en amena un, figure-toi, qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paie ce que tu dois !» Son compagnon tombe à ses pieds, le supplie, « Prends patience envers moi et je te paierai !» Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. En voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit, « Mais mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme moi j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Alors voilà encore une histoire incroyable racontée par Jésus. Et là, il y a beaucoup de détails qui ne sont pas importants. Mais il y en a un qui est vital, essentiel à comprendre. C'est quoi ? Le détail. Alors là, vous n'osez plus répondre maintenant parce que... En tout cas, il y en a deux. Et alors après, avec nos sensibilités, chacun va venir avec son détail. Pour moi, le premier détail, c'est la disproportion entre les deux dettes. 10 000 talents, 100 deniers, c'est un univers entre les deux. Et qu'a fait cet esclave pour devoir autant d'argent à son maître ? C'est énorme. Et 100 deniers, c'est pas grand-chose. Et puis le deuxième détail qui me frappe, et là on parle de la grâce, c'est ce maître qui se laisse émouvoir de compassion. Parce que ce serviteur lui dit « Prends patience ». Le Dieu de l'univers, immortel, souverain, prince de la paix, Père éternel, Seigneur, Sauveur, Créateur du monde, se laisse émouvoir par la prière de cet homme. Alors ça, c'est surprenant, mais qui est ce Dieu qui se laisse émouvoir par quelqu'un qui fait en plus une vilaine prière ? Une prière qui est juste jusqu'à un certain point, mais pas complètement, et vous comprendrez pourquoi. Mais même si nos prières sont maladroites, incomplètes, mal à propos, il se laisse émouvoir. Étonnant. Alors il me semble que effectivement une des clés de ce texte, c'est cette parole, ému de compassion, il lui remit sa dette. Et cette parabole dit beaucoup de choses. La première, c'est que mon péché est comme une dette envers Dieu. Et pour parler du péché, la Bible utilise souvent cette métaphore, cette image de la dette. Vous savez, la dette financière qu'on a parfois envers des gens, hein, c'est un poids qui nous écrase, hein, surtout si on se dit qu'on n'a aucun moyen de payer cette dette. Hein. Et la dette que j'ai envers Dieu est incurablement irrésolvable. Et cette parabole a pris pour moi un tournant différent avec l'affaire, comment il s'appelle ? Comment ? Kerviel, voilà, qui a fait perdre à la Société Générale un peu l'équivalent de ses 10 000 talents, 5 milliards d'euros en quelques heures, au point que la banque a été ébranlée sur ses fondements et qu'elle a failli mettre la clé sous le paillasson. 130 000 personnes sorties du marché du travail, par l'erreur de ce Jérôme Kerviel. Alors, Jérôme Kerviel a essayé de démontrer qu'il n'était pas le seul coupable. Mais voilà, et dans le jugement qui a été prononcé, la banque a exigé que Kerviel lui rembourse les 5 milliards d'euros. Et alors, quand on a demandé à la banque, mais vous n'êtes pas sérieuse ? Non, non, par principe, on veut qu'il nous rembourse les 5 milliards d'euros. Ce qui aurait pris à Jérôme Kerviel 236 000 années, compte tenu du salaire qu'il avait. Et la banque a dit, par principe, notre dette devant Dieu est insolvable. Et ce que nous dit la grâce, eh bien, c'est que par sa mort sur la croix, Jésus a payé ma dette. Jésus a enlevé ma créance. Et ce pardon, cette grâce se croit autant qu'elle se reçoit. C'est certainement la plus grande difficulté que nous avons. Non seulement croire, recevoir. Et puis la troisième difficulté, transmettre aux autres. Cette grâce dont nous sommes l'objet, cette grâce dont nous sommes le centre, hein, pouvoir la vivre, l'intégrer et la transmettre. Hein, ce que cet homme, manifestement, n'arrive pas à faire. Et alors, on n'aura pas le temps, mais je pose souvent la question, et je l'ai posée aux 43 étudiants de la formation en Belgique, mais quel est le problème de cet homme ? Alors très souvent, les gens disent, cet homme, il est ingrat, cet homme, il a la mémoire courte, cet homme n'a pas compris la grâce, cet homme a un problème éthique, en fait. Mais si c'était un problème éthique, ce ne serait pas grave. Cet homme a un problème spirituel. Et quel est le problème spirituel de cet homme ? Ben, je pense qu'il ne croit pas vraiment que sa dette est remise. Et je me demande, et pas seulement moi, mais un certain nombre de théologiens avec qui j'ai discuté du texte, je me demande s'il n'est pas dans la logique d'aller récupérer les 100 deniers au cas où le maître sera visé. Et il règle ses comptes pour pouvoir constituer une trésorerie, comme Jérôme Kerviel peut-être, pour commencer à rembourser le maître si jamais le maître sera visé. Parce que c'est trop beau pour être vrai qu'un maître me pardonne de toute cette dette que j'ai accumulée simplement par le simple fait que j'ai exprimé des regrets. C'est trop facile. C'est trop beau pour être vrai. Mais c'est tellement beau qu'on rêve au plus profond de soi que ce soit vrai, que ce soit juste. Et on voit cette non-foi, cette non-croyance du serviteur par la prière qu'il fait. « Sois patient envers moi et je paierai tout ». Voyez, on n'est pas dans la grâce. Hein. Il a compris qu'il est l'objet de la grâce, mais il est toujours dans cette logique de vouloir payer quelque chose, rembourser quelque chose. Parce que ce n'est pas possible d'être devant un Dieu qui ne nous demande simplement de croire et de venir avec notre cœur le plus complet et lui dire « Aie pitié de moi, accueille-moi ». Et évidemment, quand on est dans cette logique-là, on est dans une impasse absolue. Et il me semble que notre difficulté, parfois, à recevoir la grâce et à rendre la grâce, la restituer, recevoir le pardon de Dieu et restituer ce pardon dans nos rapports les uns avec les autres, quand Jésus nous dit « Lavez-vous les pieds les uns les autres », c'est clairement, explicitement, en rapport avec cette nécessité de nous pardonner les uns les autres en permanence, parce que nos pieds, c'est les pieds de notre vie, enfin, symboliquement, c'est les pieds qui nous font marcher, qui nous font vivre et qui nous font mal agir parfois. Et quand Jésus dit à Pierre, tu es propre, tu n'as pas besoin d'être lavé entièrement, juste tes pieds, laisse-moi aussi souvent que nécessaire, aussi souvent que nécessaire, te laver les pieds. Tu es propre, Pierre, tu n'as pas besoin de reprendre un bain complet. Tes pieds vont t'amener à te ressalir. Donc je me mets à tes genoux, Pierre. Le lavement des pieds, c'est quand même Dieu à nos genoux. Et laisse-moi te laver les pieds. Et la conclusion du maître, je suis Seigneur et Maître, vous le savez, et vous voyez ce que je fais. Eh bien, lavez-vous les pieds les uns les autres. Continuez à vous laver les pieds les uns les autres. 5 minutes encore. Superbe. Mais on ne sait pas faire ça parce que très souvent, nous avons beaucoup de mal à accueillir de manière complète, généreuse et absolue le pardon que Dieu nous offre. Et notre difficulté parfois à pardonner est souvent le signe, l'indice de notre accueil profond, total, du pardon immérité de Dieu à notre égard. Donc, cessons de vouloir rembourser une dette à Dieu. Et la grâce et le pardon suscitent la reconnaissance. La reconnaissance, la foi. Et la foi, le désir et la volonté d'imiter Dieu. Nous sommes invités à imiter Dieu, lui qui fait lever son soleil sur les justes et les injustes, les bons et les ingrats. Au nom de la pédagogie d'imitation. Et le petit mot « comme » que l'on voit dans, notamment dans Matthieu 18 est vraiment un mot très important. On a parlé du pardon, effectivement, la semaine dernière. Pardonner parce que c'est utile. Pardonner parce que on imite Dieu en faisant ça. Et c'est notre privilège, c'est notre cadeau. Là, on n'est plus des serviteurs, on est les amis du Seigneur. Et le Seigneur nous dit, imitez-moi. C'est notre cadeau. C'est notre privilège. Et on vit souvent ça comme un fardeau qui nous pèse. Et juste, voilà, qu'est-ce que Jésus nous apprend au travers de Matthieu 18 ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Eh bien, une bonne fois pour toutes, accueillons la grâce comme quelque chose de gratuit et immérité. Et la grâce ne dépend pas de nous. Elle dépend de la seule initiative de Dieu qui est souverain et généreux. Verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Alors là, logiquement, on va dire au Seigneur, mais non, Seigneur, heureusement que tu es bon. Alors, délecte-toi de ça. Et arrête de faire. Tiens-toi tranquille à mes côtés et délecte-toi de ma bonté. La grâce est au-dessus de la loi. Magnifique texte de Luther que j'ai lu tout à l'heure. La grâce est au-dessus de la loi comme une gigantesque parenthèse dans laquelle tout reste enfermé. Mais je peux vous dire que si les gens du dehors savaient que nous croyons ça, mais nos églises seraient bondées. Parce que trop souvent et malheureusement, nos églises sont perçues par les gens de l'extérieur comme le lieu des gens saints, purs et qui n'ont rien à se reprocher. L'église est le plus beau refuge pour les pécheurs. Et il faut que dans notre évangélisation, il faut que dans notre pédagogie, il faut que dans notre enseignement, nous fassions de l'Église le plus beau, le plus grand, le plus sûr des refuges pour les pécheurs. La grâce est au-dessus de la loi. La grâce couvre absolument toutes nos erreurs, nos fautes et nos péchés, absolument tout. Absolument tout. Et enfin, la grâce est venue, comme elle vient toujours, gratuite, sans condition, aux frais de la maison. Tout ça est à toi. Tu n'as pas besoin de le demander. Tu n'as pas besoin de le mériter. Tout ce qui est à moi est à toi. Voyage au pays de la grâce, et je viendrai tout à l'heure sur cette idée toute simple, ce que nous devons consommer sans modération. Et ça, c'est vraiment l'invitation du Seigneur, et je vous retrouve cet après-midi pour le troisième temps sur ce sujet. Merci.